Alors, deux choses, s'il vous plaît. Deux choses. D'abord, c'est pas du tout de l'autocensure. Mon enregistrement a sauté au moment où je vous ai mis l'audio de Manon Aubry, parce qu'en ouvrant Twitter, en fait, ça a interrompu l'enregistrement. Donc, il manquera sur l'audio les 3 minutes où je vous explique la définition de l'immeuble, mais on va y revenir en détail là, donc c'est pas problématique. Par ailleurs, j'ai une de vos camarades qui m'a dit qu'elle avait accès à eCampus et donc à tous les audios que j'avais déjà postés. Donc, allez jeter un œil et vous me direz mercredi prochain si ça fonctionne. Vous, s'il vous plaît, pas maintenant, ça sert à rien. Vous irez voir après. Je vous ai expliqué, il y a certains audios qui ont sauté, certains qui ont enregistré qu'à moitié. Je suis désolée, je fais avec les moyens du bord. Parfois, j'ai les enregistrements qui sautent. Je change d'appli là depuis ce matin, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est, voilà, je fais ce que je peux. C'est de toute évidence juste un support supplémentaire pour vous aider à retravailler le cours ou encore une fois, aider un peu ceux qui ont une activité salariée où c'est compliqué d'être présent. De toute évidence, ça n'empêche pas les étudiants d'être présents en amphi. Et encore une fois, je vous en remercie. C'est très agréable que vous soyez aussi nombreux. Mais donc, voilà, vous irez voir. De toute façon, les slides d'aujourd'hui, je les envoie quand même au quatuor qui s'était désigné pour être sûr. Je les mettrai en ligne parce que j'ai tout mis au fur et à mesure sur eCampus. Mercredi prochain, vous me direz si vous y avez accès ou pas. Et le cas échéant, si ça vous arrange, de toute façon, à partir de la semaine prochaine, il ne reste que 4 cours. Hein. Si ça vous arrange qu'on continue quand même et que... Ouais, ça passe vite avec moi. Hein. Si ça vous arrange que je continue malgré tout à envoyer les slides aux 4 qui relancent sur le WhatsApp, moi, ça ne me gêne pas du tout. Et je les mets sur Hippocampus en plus. Allez, une fois qu'on a précisé que certains de nos législateurs ne savaient pas ce que c'était que la distinction meuble et immeuble, on va quand même essayer, nous, d'expliquer ce que c'est. Et donc... Encore une fois qu'on a précisé que certaines étaient qualifiées, donc certaines choses étaient qualifiées d'immeubles, c'est-à-dire étymologiquement de choses insusceptibles d'être déplacées dans l'espace, et d'autres de meubles, c'est-à-dire au contraire susceptibles d'un déplacement dans l'espace, il faut voir comment les catégories se subdivisent. Pour les immeubles d'abord, c'est-à-dire encore une fois les choses qui ne sont pas susceptibles de se déplacer, d'être déplacées. L'article 517 du Code civil vous dit, c'est pas la peine de le noter, les biens sont immeubles par leur nature, par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent. On va prendre les 3 catégories. Les immeubles par nature d'abord, qu'est-ce que c'est ? Le sol, la terre, le terrain, donc vous êtes propriétaire d'un terrain, il n'y a rien dessus, c'est en friche, c'est un immeuble, voilà, parce que c'est par définition un terrain, il n'est pas susceptible d'être bougé. Et vous êtes propriétaire d'un terrain dans le Nord-Pas-de-Calais, vous ne pouvez pas le déplacer en Corse. Voilà. Ce n'est pas susceptible de se déplacer. Donc, le sol, le terrain, et les biens qui, éventuellement, sont incorporés dans ce terrain. Donc, des constructions, des bâtiments, quelles qu'elles soient, encore une fois, pas forcément un immeuble au sens courant, une construction que vous allez insérer dans le sol, ça devient un immeuble par nature, un mur, un puits, tout ça, c'est des immeubles. Des végétaux qui sont implantés sur le terrain, c'est des immeubles aussi. Voilà. La qualification, elle est quand même beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir à l'esprit quand on n'a jamais mis les pieds 5 minutes dans un amphi de droit. Bref, vous avez ensuite la catégorie des immeubles par destination. Alors, vous approfondirez ça en droit des biens, en L3, hein, toutes ces catégories-là, mais on en dit quelques mots quand même pour que vous sachiez de quoi on parle quand on parle d'immeubles par destination. Bah, là encore, si on réfléchit 2 secondes à l'expression, c'est des choses qui sont destinées à l'immeuble, qui sont destinées à être rattachées à l'immeuble. Donc parfois, le droit des biens va considérer que des animaux ou des objets que le propriétaire du fonds y place pour l'exploitation du fonds, un troupeau par exemple qui a vocation à être sur un terrain précisément, ça devient des immeubles par destination. Voilà. Des machines agricoles qui sont placées sur le terrain volontairement et pour l'exploitation de ce terrain, ça devient des immeubles par destination. La condition supplémentaire pour que on puisse qualifier d'immeuble par destination, c'est que, je vous le dis techniquement, je vous le réexplique ensuite, c'est que l'immeuble par nature et l'immeuble par destination est le même propriétaire. Ça veut dire que si je suis propriétaire d'un terrain et que j'y place un troupeau, ce troupeau peut être qualifié d'immeuble par destination si c'est mon troupeau à moi, sur mon terrain à moi. Si je place mon troupeau sur votre terrain en disant qu'à partir de maintenant, il est affecté à l'exploitation de ce terrain, le troupeau, mon troupeau, ne peut pas être un immeuble par destination parce qu'il y a deux propriétaires différents. Le propriétaire de l'immeuble par nature, c'est-à-dire le terrain, et le propriétaire du troupeau, moi, sont des propriétaires différents. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas qualifier d'immeuble par destination. Ça n'est possible que quand c'est le même propriétaire. L'autre catégorie des immeubles par destination, c'est ce qu'on appelle les effets immobiliers à perpétuelle demeure. Alors, là encore, expression très technique, qu'est-ce que c'est que les effets immobiliers à perpétuelle demeure ? C'est des ornements qui sont scellés dans les immeubles. Alors, il y a un côté un peu vintage parfois. C'est des boiseries, par exemple. À l'intérieur d'une maison, vous allez avoir des boiseries, les poutres qui sont, on ne sait rien moi, sculptées, peu importe. J'ai pas le mot. Pas une fresque, mais aidez-moi, j'y arrive pas. Les œuvres qui sont faites avec des tout petits carreaux. Et mosaïque, merci beaucoup. Une mosaïque sur un mur, ça devient un effet à perpétuelle demeure. Dans l'absolu, c'est des petits carrés qui sont placés, c'est une œuvre, mais cette œuvre est incluse dans un mur, dans le sol. C'est une théorie des dominos, en fait. Ça devient ce qu'on appelle un immeuble par destination parce que c'est un effet immobilier à perpétuelle demeure. Vous ne rencontrerez pas ça tous les trois jours hein, comme qualification juridique, mais il faut savoir que ça existe. Et enfin, la qualification de ce qu'on appelle les immeubles par l'objet, c'est-à-dire tous les droits réels immobiliers, les créances immobilières. Parenthèse, je vais en reparler dans 5 minutes, mais essentiel. Je viens de dire les droits réels immobiliers. Un étudiant sur deux, parce qu'il n'est pas latiniste, c'est pas une maladie, c'est pas grave en soi, mais il faut rattraper le truc, pense que droit réel, c'est un droit qui a une réalité, un droit concret, un... Oh, surtout pas. Vous parlez de droit réel parce qu'en latin, la chose, ça se dit res, R-E-S. Le droit réel en droit, c'est le droit qui porte sur une chose. Parce que la chose en latin, ça se dit res. Quand je vous dis qu'il faut avoir les bases du latin en droit, alors pas de panique pour ceux qui ne sont pas latinistes, hein, vous regardez sur Google. Mais faites attention au sens des termes. Et réfléchissez 2 secondes. Un droit réel, ça, si on le prend dans ce sens-là, de un droit qui a une réalité, ça veut dire qu'il y a des droits irréels qui n'ont pas de... Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc faites attention au sens des termes. Ouvrez un dictionnaire étymologique. Si vous n'avez pas de dictionnaire étymologique papier à la maison, ce n'est pas grave. Vous regardez sur Google. Mais allez faire l'effort de regarder le sens des termes. Si vous ne faites pas ça, je sais que je vous rabâche ça. De l'étymologie, du sens des mots, etc. A priori, quand vous serez loin dans votre carrière et que vous aurez tous les bagages qu'il faut, vous me remercierez là-dessus. Faites gaffe. Le sens des mots est décisif en droit. Parfois, vous allez aller chercher la virgule, le truc qui change le... Faites attention au sens des termes. Et donc, vous me mettez tous dans vos cours un encadré en police 20. Droit réel égale droit qui porte sur une chose. Ça vient de res. Voilà. Donc, on va parler des droits réels à chaque fois que c'est des droits qui portent sur une chose, par opposition aux droits personnels qu'on verra la semaine prochaine. Donc, immeuble par l'objet, c'est l'ensemble des droits qu'on verra par la suite, les droits réels immobiliers, les créances immobilières. Ça, c'est pour la catégorie des immeubles. En parallèle des immeubles, vous avez la catégorie des meubles, donc encore une fois, des choses qui, elles, sont susceptibles d'être bougées dans l'espace, de se mouvoir, d'où le terme de meuble, de se mouvoir dans l'espace. Et donc là, c'est l'article 527. On a dit tout à l'heure que pour les immeubles, c'était 517 du Code civil. Là, c'est 527. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les meubles par nature, c'est les meubles qui peuvent se transférer d'un lieu à l'autre. Le législateur, à l'article 528, vous dit les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Par nature, par essence, par définition, ce sont des meubles, puisqu'un meuble, c'est ce qui peut se transporter. Donc, vous avez un certain nombre de catégories de choses qui sont des meubles par nature, par essence. Elles peuvent se transporter d'un lieu à l'autre. Tous les objets que vous avez dans l'amphi, là, et que vous avez récupérés chez vous ce matin en vous préparant pour les amener ici, que vous ramènerez chez vous, c'est des biens meubles. Voilà, faux paires de lunettes, etc. Tout ça, c'est des choses mobilières. C'est l'autre façon de le dire. Les choses immobilières, les choses mobilières. Donc, les choses mobilières, c'est des choses qui peuvent se transporter, se déplacer. Vous avez ensuite je viens après sur la question des meubles par anticipation, c'est différent. Mais vous avez aussi, ensuite l'autre grande catégorie qui est identifiée par l'article 527 et qui est donc les meubles par détermination de la loi. Intéressant, cette catégorie-là. Les meubles par détermination de la loi, c'est les choses incorporelles. Par définition, une chose incorporelle, elle ne peut pas être transportée puisqu'elle n'a pas de matérialité. Ce matin, vous avez pris votre sac à main, votre sac à dos, vous l'avez mis sur vous et hop, vous êtes parti, vous l'avez transporté. Mais vous avez pu faire ça parce que vous avez pu vous saisir de votre sac, le mettre sur votre dos et partir. Une chose incorporelle, par définition, vous ne pouvez pas vous en saisir, donc vous ne pouvez pas la déplacer dans l'espace. Ça n'a pas de sens. Donc, elle est meuble, mais elle n'est pas meuble par nature, par définition, puisqu'elle ne peut pas se déplacer. Elle est meuble parce que le législateur vous dit qu'elle l'est, par détermination de la loi. C'est le législateur qui décide que les choses incorporelles sont des biens meubles. Voilà. Et il y a d'autres choses à voir sur les choses incorporelles qu'on laisse de côté, notamment l'ubiquité de la chose immatérielle. La chose matérielle, on prend l'exemple, on garde l'exemple de votre sac à main, de votre sac à dos, vous l'avez mis sur vous, vous l'avez emporté, il y a un sac. Voilà. Et si vous avez tous le même modèle parce que c'est la mode, eh ben, il y a 12 sacs ou 40 sacs, mais vous les identifiez. Et à chaque fois, il y a une propriété bien réelle posée, corporelle. La chose immatérielle, vous rentrez chez vous et vous regardez tous la même série sur Netflix. L'œuvre, elle est diffusée de la même façon. Soit vous vous lancez tous parce que ça vous amuse de faire ça dans la promo au même moment pour regarder l'épisode de la telle série au même moment, soit en décalé. L'ubiquité de l'œuvre, c'est ça. Parce qu'elle est incorporelle, elle peut être consultée indifféremment. Voilà. Il n'y a pas de support, donc c'est pas « moi je l'ai, donc tu ne l'as pas ». Je peux y accéder, mais vous aussi. L'incorporalité fait qu'il y a une possibilité de multitude. C'est plus complexe, je laisse ça de côté, mais sachez que ça existe. Et puis, dernière catégorie, qui est un peu particulière et qu'il faut rajouter malgré tout, qui est la catégorie des meubles par anticipation. Si vous avez suivi depuis le début, je vous ai dit, les forêts, etc., les végétaux qui sont plantés dans le sol, c'est des immeubles par nature. C'est planté, c'est ancré dans le sol, donc c'est un immeuble par nature. On va pas trop tarder à voir dans les magasins, etc., puisqu'ils commencent de plus en plus tôt. Je sais même pas, ça se trouve, ça y est déjà, les trucs de Noël. Et vous allez avoir des gens qui vont vendre des sapins. Si vous achetez un vrai sapin, ce sapin, il a été coupé sur un terrain et après, il vous est vendu. Pour certains contrats, notamment le contrat de vente dans ces cas-là, il est utile d'anticiper sur une qualification à venir. C'est-à-dire que vous avez votre forêt de sapins à vous, dans laquelle vous allez couper pour aller vendre vos arbres après en décembre. Vous savez que ces arbres-là, ils ont vocation à être coupés. Et que celui-là, vous l'avez réservé à tel client parce qu'il le trouve joli, il a l'habitude de venir chez vous tous les ans, donc vous lui laissez de côté. Pour l'instant, il est toujours implanté sur votre terrain. Donc c'est toujours un immeuble par nature. Sauf que parfois, c'est utile dans un contrat de vente d'anticiper une qualification qui va venir. Cette qualification à venir, c'est quand je vais avoir tronçonné mon sapin, je vais pouvoir le déplacer où je vais vouloir. Donc ça va devenir un meuble. Il était immeuble tant qu'il était implanté dans le sol, il devient meuble à partir du moment où je le découpe. On va parfois anticiper sur une qualification. Parfois, c'était des immeubles, par nature, par destination. Dans l'exemple que j'ai pris là, c'était par nature. Ça peut être par destination aussi. Vous les arrachez du sol, ils sont susceptibles d'être déplacés, ils deviennent des meubles. Donc on anticipe en présence d'un contrat de vente. Si vous concluez votre contrat maintenant en disant « bah vous savez quoi, je vous paye maintenant et cet arbre-là, je le veux », on va considérer que dès l'instant où le contrat de vente est conclu, pardon, ce qui était pourtant immeuble, et ce qui est toujours pourtant immeuble, c'est surtout ça, devient meuble parce qu'on anticipe. Un meuble par anticipation, c'est ça. Vous verrez les enjeux quand vous ferez du droit des contrats en deuxième année et en quatrième année en contrat spé, mais sachez que ça existe. Qui est paumé sur tout ça? Pour qui est-ce que ça va? Impec. On a terminé le premier chapitre. Il ne reste plus que 3 chapitres. Et après, on a fini. Bah, l'air de rien, rigolez pas, j'ai refait le calcul. Le dernier cours, c'est la semaine après les vacances et terminé. Ah ouais, et on se revoit pas du tout après, parce que c'est pas moi au second semestre. Hein. Si vous pensez que je vous vois pas, ça changera pas mon sujet d'examen. Hein. Je suis sensible à la flatterie, mais je ne suis pas débile. Non, ce n'est pas moi au second semestre. Venez faire de l'API, on se retrouve quand vous êtes plus grand en quatrième année. Eh ouais. Donc, un chapitre 2, cette fois-ci, on en a terminé. Donc maintenant, on sait tous les droits qu'on va envisager à partir de maintenant. Les types de droits, la façon dont ils naissent, la façon dont ils s'exercent, c'est focalisé sur la personne. Physique ou morale, mais la personne. Tout ce qui n'est pas personne, c'est objet de droit parce que c'est chose, le cas échéant, mais ça ne peut pas être titulaire de droit. Y compris quand on a vu avec l'embryon et le fœtus, quand c'est pourtant une personne en puissance. Quand c'est une chose qui a vocation à devenir une personne au terme d'une grossesse. C'est pas une personne. Et j'ai eu une question intéressante tout à l'heure d'une étudiante qui est venue me voir en me disant « Oui, mais si dans l'affaire Palmade, si la femme avait accouché et que l'enfant avait survécu 15 minutes, bah, ça changeait tout. » Et là, effectivement, c'était un homicide involontaire. Alors ça peut paraître, c'est ce que je disais en réponse, ça peut paraître un peu dur du coup de se dire « Mais ça se joue à une minute en fait. Si l'enfant survit une minute à la naissance, il a été considéré comme une personne. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas considéré. » Oui, il y a un côté un peu abrupt de l'application. Mais l'autre solution, c'est quoi ? À un moment, et c'est ça qui est difficile aussi quand on devient juriste, il faut que le droit tranche. Voilà. Il faut que le droit apporte une réponse et vous dise « Jusqu'à ce moment-là, ça fonctionne comme ça. Passé ce moment-là, ça va fonctionner différemment. » Voilà. Donc, parfois, c'est un peu abrupt sur l'application, mais on est obligé de fonctionner comme ça. Il n'y a pas de meilleure solution, à mon sens. Il n'y a pas de meilleure solution que celle-là, parce qu'au moins elle est fiable. N'oubliez jamais par ailleurs l'impératif de sécurité juridique. Il vaut mieux parfois une règle un peu abrupte, mais claire, on sait où on met les pieds, qu'une règle qui est floue et qui va générer une insécurité juridique monstrueuse, où en fait on ne saura pas ce qui nous attend sur l'application du droit. C'est le pire, l'insécurité juridique. Donc il vaut mieux savoir où on va. Donc on attaque maintenant sur un deuxième chapitre, sur la physionomie des droits. Encore une fois, je martèle, mais c'est volontaire, les droits subjectifs sont l'apanage de la personne. Ne peut être titulaire de droits subjectifs qu'une personne, physique ou morale. Maintenant, on a bien identifié ce premier point. Il faut déterminer, du coup, là, comment s'expriment ces droits. C'est quoi la nature de ces droits, le visage de ces droits? Quelles sont les caractéristiques de ces droits? Est-ce que je peux décider que... Je vais vous proposer un contrat dans lequel vous allez tous me céder vos droits au respect de la vie privée. Et donc, quand bon me semblera, je publierai sur les réseaux des infos de « Tiens, machin s'est marié, lui, il a eu une petite fille, et truc à divorcer. » Et je ferai ce que je voudrais parce que vous m'avez cédé votre droit à la vie privée. On peut même aller plus loin en se disant « Bah, vous me cédez votre droit à l'intégrité corporelle. » Et si j'ai envie, je passe dans l'amphi, je mets des claques, comme ça, au hasard. Mais vous m'avez cédé votre droit à l'intégrité physique, donc je fais ce que je veux. Vous sentez bien que dans ces deux exemples-là, il y a un truc qui ne marche pas, que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas me céder votre droit à l'intégrité corporelle, que vous ne pouvez pas me céder votre droit à la vie privée, que ça, c'est des droits qui sont à vous et qui ne sont qu'à vous, que le contrat ne peut pas avoir d'incidence sur ces droits-là. Et si vous avez ce sentiment-là, cette intuition-là, vous avez raison. Il y a ce qu'on appelle des droits extra-patrimoniaux qui échappent à votre patrimoine et donc que vous ne pouvez pas céder, que vous ne pouvez pas donner, etc. Qui ne sont qu'à vous, que vous ne pouvez pas choisir d'abandonner et qui restent attachés à votre personne parce qu'ils ne sont pas dans votre patrimoine. Ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc, il y a tout un corps de droits dont vous êtes titulaire, j'ai envie de dire presque malgré vous, indépendamment de votre volonté. Alors, vous les exercerez ou vous ne les exercerez pas, mais vous en êtes titulaire. Voilà. Ils vous sont nécessairement attachés, vous ne pouvez pas vous en départir. Et puis, à l'inverse, il y a d'autres droits qui, eux, sont ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans votre patrimoine. Voilà. Certains droits, au contraire, vont pouvoir être donnés, cédés, transmis, saisis par des créanciers, etc. Ces droits-là, qui peuvent être donnés, saisis, transmis, on revient sur ces notions dans un instant, c'est des droits patrimoniaux. Pourquoi on les appelle comme ça ? Parce que c'est des droits qui sont dans le patrimoine. Donc, on va envisager, là, aujourd'hui, les droits patrimoniaux, la semaine prochaine, la fin des droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Retenez ça. Un droit est patrimonial parce qu'il intègre votre patrimoine. Un droit est extra-patrimonial parce qu'il reste en dehors de votre patrimoine. Ce qui veut dire évidemment que l'enjeu premier ici, ça va être de définir le patrimoine. Voilà. Avant d'expliquer la physionomie des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux, on va prendre 2 secondes pour dire, bah, vu qu'on distingue selon qu'ils sont dans le patrimoine ou qu'ils y échappent ou qu'ils n'y sont pas, on va essayer d'expliquer ce que c'est que la notion de patrimoine. Donc, on commence tout de suite avec une section première. C'est là qu'on expliquera le patrimoine. Une section première sur les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, c'est ce que je vous ai mis au tableau. Les droits patrimoniaux, ce sont les droits subjectifs qui sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation pécuniaire, qui ont une valeur financière, économique. Et parce qu'ils ont cette caractéristique-là, ils sont susceptibles de plusieurs choses. D'abord, d'être cédés, ce qu'on appelle entre vifs, le droit le dit comme ça, V-I-F-S, c'est-à-dire entre personnes vivantes. Une vente entre vifs, par définition, c'est une vente entre personnes vivantes. Donc, possibilité de vendre, de donner, d'échanger des droits patrimoniaux. Ensuite, possibilité en plus d'une cession, en plus d'être cédé, possibilité d'être transmis, cette fois-ci non pas entre vifs, mais à cause de mort, dans le cadre d'un héritage. Vous pouvez hériter de droits patrimoniaux. Et enfin, possibilité d'être saisi. Les droits patrimoniaux peuvent être saisis par vos créanciers parce que vous leur devez une somme d'argent que vous n'êtes pas en capacité de payer pour X ou Y raison. Le créancier va faire saisir certains de vos biens pour se payer. Cette triple caractéristique cédée, transmise, saisie, vous verrez que elle est la particularité des droits patrimoniaux. On ne la retrouve pas chez les droits extra-patrimoniaux. À l'inverse, les droits extra-patrimoniaux ne sont pas susceptibles ni d'être cédés, ni d'être transmis pour un dont on parlera après, ni d'être saisis. Aucun. Voilà. Ils sont attachés à la personne et ils demeurent attachés à la personne. Une fois qu'on a précisé ça, on va rentrer du coup dans la notion de patrimoine un peu technique. On va essayer de, voilà, d'être clair. Toujours pareil, si je ne le suis pas, faites-moi penser à demander à la fin du patrimoine là, si vous êtes paumé ou si ça va, et je réexplique s'il y a besoin. Donc un paragraphe premier sur la notion de patrimoine. C'est une notion absolument décisive du cours d'intro et plus largement de votre apprentissage du droit. Je ne dis pas que le reste sert à rien, évidemment, hein, mais il y a des notions plus ou moins centrales au sens de qui vont vous suivre après dans votre apprentissage. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les effets à perpétuelle demeure, c'est important de savoir que ça existe. Je ne peux pas dire que ça va vous suivre tout au long de votre cursus et de votre pratique. Ce serait mentir. Le patrimoine, si vous ne maîtrisez pas la notion, il n'y a à peu près aucune matière que vous pourrez aborder. En droit privé, en tout cas. Contrairement à une croyance répandue, c'est un peu le symptôme de Manon Aubry avec les immeubles, là. Le patrimoine n'est pas synonyme de fortune en droit, du tout. Vous pouvez avoir un patrimoine qui va faire l'objet d'une évaluation négative, parce qu'en fait, dans votre patrimoine, il y a plus d'éléments négatifs que positifs. Il y a plus de dettes que de créances. Il y a plus d'éléments que vous devez à autrui qui viennent se soustraire à ce que vous avez que d'éléments que vous avez en positif. La définition juridique, vous l'avez au tableau. Le patrimoine, c'est l'ensemble des rapports de droit susceptibles d'évaluation pécuniaire, donc financière, hein, quand on dit pécuniaire, et dans lesquels une personne s'est engagée soit positivement, propriété, créance, usufruit, on va parler de tous ces droits-là après, hein, soit négativement pour la dette ou la servitude. Ce qu'il faut retenir là, à ce stade-là, on va développer par la suite les différents droits que je viens d'envisager là, la propriété, l'usufruit, etc., on va en reparler. Ce qu'il faut retenir là, c'est que le patrimoine, au sens juridique du terme, c'est neutre. Le patrimoine dans la terminologie juridique, c'est le contenant. Le contenant, on l'a tous, c'est un réceptacle. Voyez ça comme une espèce de grand bol symbolique qu'on a tous. Et à l'intérieur, soit il va y avoir des trucs négatifs, parce que vous avez souscrit des dettes, il y a un prêt qui est là, etc. Soit en positif, parce que vous avez des créances. Et donc, à votre décès notamment, on va évaluer ce patrimoine-là. mais potentiellement dans ce grand vase, dans ce grand récipient qu'on a identifié, il y a plus d'éléments qui viennent en négatif qu'en positif. Vous avez peut-être déjà entendu ça, ça arrive régulièrement en droit des successions, des héritiers qui refusent la succession. Parce qu'en fait, dans la succession, il y a plus à payer qu'il n'y aurait à récupérer. Et donc, vous vous dites, moi, je ne m'engage pas là-dedans et je la refuse, la succession. Voilà. Parce que dans le contenu du patrimoine récupéré, il y avait plus de négatif que de positif. Une fois qu'on a précisé ça, plusieurs choses essentielles à comprendre avant de rentrer dans les théories en présence. Toutes les personnes ont nécessairement un patrimoine. La notion de patrimoine, elle est intrinsèquement liée à la personne. On a dit tout à l'heure, toutes les personnes ont nécessairement une personnalité juridique qui la suit tout au long de leur vie. C'est pareil pour le patrimoine. À la naissance, le nouveau-né est doté d'un patrimoine. Alors, le contenu de ce patrimoine est sans doute juste virtuel à ce moment-là, encore que pas forcément. On peut hériter dans la minute où il naît, etc. Il y a même une possibilité d'hériter en amont, je vous expliquerai ça et vous verrez ça en droit de la famille, mais on en reparlera par la suite. Au moment où il naît, le réceptacle qu'on a identifié, ce vase-là, il est là, en même temps que lui. Et au fur et à mesure, ça va se remplir, en positif, en négatif, mais c'est là. Donc ça, c'est la première hypothèse. Même vide, même criblé de dettes si le passif l'emporte très largement sur le passif, toute personne a un patrimoine. Ensuite, seule une personne peut avoir un patrimoine. Évidemment, ça inclut les personnes morales. Toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales. Mais seule une personne peut avoir un patrimoine, ça veut dire qu'une chose ne peut pas détenir de patrimoine, ne peut pas être titulaire d'un patrimoine. C'est l'exemple de Choupette qu'on donnait tout à l'heure. Elle ne pouvait pas hériter de Karl Lagerfeld parce que, notamment, elle n'a pas de personnalité juridique et donc elle n'a pas de patrimoine. Donc, elle n'avait pas de... Si on garde notre métaphore, mais qui marche assez bien sur le patrimoine, elle n'avait pas ce vase, ce grand bol pour récupérer les droits de Lagerfeld. Seule une personne peut avoir un patrimoine. La chose, même la chose particulière comme l'animal, elle est dépourvue de patrimoine. Donc, elle est notamment incapable d'hériter. Et enfin, une personne... D'abord, il faut que je précise. Seule la personne peut avoir un patrimoine, mais ça veut dire aussi que le patrimoine vit aussi longtemps que la personne. Et vous ne pouvez pas transmettre votre patrimoine de votre vivant. Vous pouvez décider de transmettre tous les éléments du contenu du patrimoine, si vous avez envie. Ça, vous pouvez le faire de votre vivant. Vous avez des éléments positifs, vous décidez de les transmettre, de les donner, etc. Donc vous vous retrouvez avec un contenant qui est vide. Mais le contenant, il est toujours là. Le patrimoine vous reste attaché jusqu'à votre mort. Même vide, même évalué en passif, le patrimoine, vous ne pouvez pas le transmettre. Vous pouvez transmettre des éléments de son contenu. Mais lui, en tant que contenant, il vous reste perpétuellement attaché. Le dernier point... qui est donc le dernier truc du schéma, c'est le fait que chaque personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine. Alors d'abord, jusque-là, qui est paumé? Pour qui est-ce que ça va? Super. Le fait que vous ne puissiez... C'est compliqué au tableau, vous inquiétez pas, les slides, vous les aurez, je vais expliquer tout ça. Chaque personne peut avoir qu'un seul patrimoine. Derrière cette idée, il y a ce qu'on exprime dans un vocabulaire plus technique qui est le principe de l'unité du patrimoine. Cette idée, elle est relativement simple, on va essayer de la détailler. En fait, si on veut schématiser d'entrée, une personnalité juridique égale un patrimoine. Voilà. Dès lors qu'il y a personnalité juridique, il y a patrimoine et il y a un seul patrimoine. Voilà. Un patrimoine par personnalité juridique. La règle de base, c'est ça. Elle n'est pas éminemment compliquée dans l'absolu. Le patrimoine, à partir des travaux d'Aubry Hérault, vous avez les noms des auteurs au tableau dans le premier cadre, la théorie d'Aubry Hérault, Aubry et Hérault, ces deux auteurs du 19e siècle. À partir de leurs travaux, on considère le patrimoine comme étant une universalité de droit. La définition est au tableau, c'est-à-dire que on considère que les droits et les charges, donc les éléments qui viennent en positif et les éléments qui viennent en négatif, sont liés. Voilà. Et donc, on va faire une évaluation, en fait, en venant retirer des éléments positifs, les éléments négatifs que vous avez. Parce que le tout forme un ensemble qui est lié. Tous les droits en positif, en négatif sont liés entre eux. Donc, on va soustraire les éléments négatifs des éléments en positif pour faire une évaluation globale de ce qu'il y a dans votre patrimoine. Ça veut dire que toute personne, dans son patrimoine, si elle a des actifs et des passifs, ben, elle a des éléments négatifs, c'est-à-dire des dettes. La personne est débitrice, un débiteur, c'est ça. C'est quelqu'un qui doit quelque chose à autrui. On détaillera ça la semaine prochaine sur les droits personnels, hein, pas de panique. Mais sachez tout de suite que débiteur créancier, qui sont des qualifications que vous allez utiliser en permanence à partir de maintenant, débiteur créancier, c'est ça. Je suis débiteur si je dois quelque chose à quelqu'un, si je me suis engagé à exercer, à effectuer, à réaliser une obligation à l'égard de quelqu'un. Et à l'inverse, je suis créancier, créancière, si on me doit l'exécution d'une obligation. Et donc, dans un rapport d'obligation, vous avez deux parties, un créancier, un débiteur. Celui qui doit, c'est le débiteur, la partie débitrice. Celui à qui on doit, c'est le créancier, celui à qui on doit l'exécution de l'obligation. Sachant que, parce que le droit s'éméandre comme ça, vous avez ce qu'on appelle des contrats synalagmatiques. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, on a déjà rencontré le terme, on le rencontrera par la suite encore. Contrat synalagmatique, c'est quand les deux s'engagent réciproquement. Exemple, contrat de vente, je vous achète votre téléphone à la sortie de l'amphi parce que précisément j'ai balancé le mien contre un mur. Je m'engage à payer le prix, vous vous engagez à me donner le téléphone. Ce qui veut dire que de mon point de vue, je suis à la fois débitrice de l'obligation du paiement, puisque je dois vous payer, et je suis créancière de l'obligation de délivrance du bien. Je suis créancière du fait que vous allez me remettre votre bien. À l'inverse, si on prend de votre prisme à vous, bah c'est le contraire. Vous êtes créancière de l'obligation, ou créancier, messieurs, créancier de l'obligation de paiement, puisque je dois vous payer, mais vous êtes débiteur ou débitrice de l'obligation de délivrance, puisque vous devez me remettre. Donc, dans un contrat synalagmatique, le débiteur et le créancier ont les deux casquettes. Vous êtes débiteur de votre obligation créancière, de l'obligation créancier, de l'obligation de l'autre, et inversement pour l'autre partie. Qui est paumé? Pour qui est-ce que ça va? C'est moyen, c'est normal. On retrouve de toute façon cette qualification, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je pense qu'on aura le temps, on verra les sources, et notamment les sources des contrats, dans les contrats, des obligations, et ce sera plus clair. À ce stade-là, ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous pouvez être débiteur ou créancier. Voilà, avoir souscrit une obligation, devoir l'exécuter, là vous êtes débiteur. Ou alors on a souscrit une obligation auprès de vous, on doit exécuter une obligation auprès de vous, et vous êtes créancier. C'est ces éléments-là qui vont composer le patrimoine. Et donc pour ce qui nous intéresse ici, l'idée de l'universalité de droit, c'est de dire chaque élément de l'actif répond à tous les éléments du passif. J'ai un truc qui vient en positif dans mon patrimoine, cet élément en positif, il peut être absorbé par tous les éléments en négatif qui sont là. La théorie de l'universalité, c'est ça. En fait, je ne peux pas segmenter, et donc tout ce que j'ai en positif va répondre potentiellement de ce qui vient en négatif, parce que ça forme un ensemble indissoluble. Cette théorie, justement, elle est nuancée par l'influence de la théorie allemande que je vous ai mis à côté, et qui est la théorie du patrimoine d'affectation. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette théorie? Bah, pour le coup, c'est l'inverse. Dans la théorie allemande, il est possible d'affecter spécifiquement certains biens, certains éléments de l'actif, précisément à certains éléments du positif, du négatif. Je n'ai pas fait de schéma parce que je ne me lance pas dans des dessins. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, si vous voulez schématiser un peu, dessiner autour du schéma que je vous ai mis, dans la théorie de Briero, c'est un cercle unique, le patrimoine, c'est un bloc unique, et tout se répond. Tous les éléments de l'actif répondent à tous les éléments du passif, et rien n'est relié. Dans la théorie allemande, vous allez faire des traits pour relier les éléments. Ah bah attention, moi, cet élément de l'actif, je le mets précisément pour répondre à cet élément du passif-là. Voilà. Et vous allez raccrocher précisément des éléments de l'actif identifiés à des éléments du passif identifiés aussi. Ça, vous ne pouvez pas le faire dans la théorie de Briero, précisément parce que c'est une universalité et tout répond à tout. Donc, il n'y a pas de lien entre les éléments. Dans la théorie du patrimoine d'affectation, j'affecte précisément certains de mes éléments en positif à des éléments en négatif dans mon patrimoine. D'où le terme de patrimoine d'affectation. Et donc, pour le coup, dans la théorie allemande, il devient possible de segmenter. Vous allez créer des tiroirs. Ça, ça répond à ça. Et ça, ça répond à ça. Et ça, ça répond à ça. Voilà. Et vous affectez spécifiquement. Donc, dans cette théorie, il n'y a pas de globalité absolue comme dans l'universalité de droit française. Si on reprend la théorie moderne, du coup, l'analyse française contemporaine, ce que je vous ai mis, le principe, ça demeure l'unité du patrimoine. Ça demeure l'universalité. Donc, la règle de principe, c'est bien chaque élément du positif répond de tous les éléments qui viennent en négatif. Je ne peux pas raccorder précisément les uns aux autres. Donc tout ce que j'aurai en positif viendra couvrir mon négatif éventuel. Ça, c'est le principe. Mais il y a des... Ce n'est pas des exceptions, mais il y a des voies, comme souvent en droit, qui vont vous permettre de détourner, plus exactement que détourner, de contourner ce principe-là. C'est plus clair. D'abord, créer une personne morale. On reprend la règle qu'on a vue là, une personne égale un patrimoine, et chaque personne a son patrimoine. Je veux me lancer dans une activité, mais cette idée de l'universalité de droit, elle me stresse un peu. J'ai pas très envie d'engager tous mes biens personnels sur une activité dont je sais pas ce qu'elle va donner. Je crée une personne morale, et cette personne morale, elle va avoir son patrimoine à elle. Donc, l'activité de la personne morale, elle sera couverte par son patrimoine, mais c'est pas le mien. Et notamment, là où ça devient presque une exception au principe de l'universalité, c'est qu'il est possible, depuis 1995, de créer ce qu'on appelle une URL, c'est-à-dire une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Comme son nom l'indique, c'est une société dans laquelle il n'y a qu'une seule personne. Si on veut schématiser un peu, c'est plus ou moins un dédoublement d'une personnalité morale et donc d'un patrimoine. Vous, en tant qu'individu, quand vous allez lancer votre activité, vous allez la lancer en créant une société, société qui aura son patrimoine. Donc toutes les dettes qui auront été souscrites au nom de la personne morale, elles auront vocation à être payées sur l'actif de la personne morale qui a son propre patrimoine. Donc le URL, puisqu'elle n'engage qu'une seule personne, elle permet à la personne physique qui est derrière d'éviter de mettre son propre patrimoine sur la table, donc c'est pas dérisoire quand même, c'est une sécurité immense quand vous vous lancez, et juridiquement elle pose pas de problème parce qu'on a bien nos deux personnalités juridiques. Vous avez bien créé une personne morale, donc on n'a pas une personne qui a deux patrimoines. On a une personne physique qui a créé une personne morale, ce qui fait qu'on a bien deux personnalités juridiques en présence, la personnalité juridique de la personne physique, celle de la personne morale, et comme elles ont chacune leur patrimoine, on a pu segmenter, affecter, comme dans la théorie allemande, tout en préservant notre théorie à nous, parce qu'on a bien deux personnalités juridiques. Pas de problème là-dessus. On est allé plus loin pendant une période, et puis ça a été supprimé en 2022, mais en 2010, on a créé, c'est pas la peine de le noter, vous savez juste que ça existe, vous l'avez entendu comme ça, mais ça n'existe plus, donc c'est juste pour information. En 2010, le législateur a créé le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Alors là, c'était beaucoup plus particulier parce qu'il n'y avait pas de création d'une nouvelle société pour le coup. Vous preniez le statut d'entrepreneur. Et donc, on considérait qu'en prenant ce statut, il y avait un patrimoine propre et un patrimoine professionnel de l'autre côté. Ça jouait plus avec la théorie pour le coup, parce que par définition, vous étiez juste entrepreneur, vous ne créiez pas d'entreprise, qui avait donc, elle, sa propre personnalité, mais il y avait juste une scission des patrimoines. Ça a été supprimé en 2022, et désormais, il est plus simplement possible que d'avoir une entreprise individuelle. Voilà. Donc on est revenu aux fondamentaux, et il y a bien une personne, un patrimoine, et ça fonctionne comme ça. Il n'empêche que quand vous voulez éviter de mettre votre patrimoine à vous en jeu, votre patrimoine perso, la meilleure des solutions, c'est de créer une entreprise unipersonnelle. En la créant, vous créez une nouvelle personnalité morale et vous pouvez attacher à cette personnalité morale le contenu dans le patrimoine que vous voulez. Et ça vous permet de préserver le vôtre. Voilà pour l'analyse du patrimoine. Qui est paumé ? Ok, sur quoi vous êtes paumé ? Parce que là, vous êtes nombreux. Je le prends pas mal du tout, c'est juste pour savoir ce que je réexplique. Oui ? Sur les théories pour tout le monde ? Ok. Je vais essayer de faire très schématique. Notre théorie à nous... C'est de dire, en fait, vous ne pouvez pas choisir en disant à un créancier qui va se présenter parce que vous lui devez de l'argent, « Ah oui, mais moi, cette créance-là, je l'ai attachée spécifiquement à ces biens en positif-là et je n'ai pas assez, etc. » Mais vous ne pouvez pas vous rembourser sur ma maison en la faisant saisir, sur ma voiture, etc. En droit français, c'est un tout. Donc, vous avez du positif, vous avez du négatif. S'il faut payer le négatif, vous irez le chercher là où il y a du positif. Et vous n'avez pas votre mot à dire sur ce qu'on va chercher dans votre positif. Chaque élément du positif répond au négatif. Dans le patrimoine d'affectation, au contraire, on peut affecter. Et dire, cet élément que j'ai en positif, il viendra couvrir celui-là en négatif. Mais les autres, je les laisse de côté. Ma voiture, je l'adore. Je ne la mets pas dans les éléments en positif qui permettent de couvrir. Je ne l'affecte pas à cette dette-là. C'est ça, le patrimoine d'affectation. Vous allez faire des liens en disant, à cette dette répond cette créance. À ce négatif répond ce positif, précisément. Là où dans le droit français, on vous dit, peu importe, je prends sur ce que je veux en positif. Dès lors qu'il y a une dette et qu'il faut récupérer, je prends sur ce que je veux. Donc, la théorie française, ça reste bien ça, de dire, c'est une universalité, on ne peut pas segmenter. Ceci étant dit, il y a la possibilité de créer la fiction juridique qu'est la personne morale, en créant notamment une URL, voire une IRL. Dans ce cas-là, vous aurez en fait une personne physique qui aura créé sa propre entreprise, puisque par définition, dans une entreprise unipersonnelle, vous êtes le seul associé. Donc, il y aura eu création d'une nouvelle personnalité. Mais comme il y a une nouvelle personnalité, il y a un nouveau patrimoine. Donc, quand vous lancez votre activité, c'est un biais pour éviter de mettre votre patrimoine personnel et qu'on vous dise, bah, la voiture que vous adoriez, en fait, il y a des dettes sur votre activité professionnelle, donc je me récupère comme ça. Non, c'est des dettes de la personne morale. Donc, c'est sur le patrimoine de la personne morale. Est-ce que c'est un peu plus clair ? Qui est encore paumé ? Je le prends pas mal du tout, encore une fois, c'est technique. S'il faut expliquer 100 fois, je réexplique, il n'y a pas de problème. Qui est paumé ? Pour qui est-ce que ça va ? C'est moyen. Souvenez-vous, de toute façon, je vous ai dit, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'une de vos camarades aussi, le dernier cours, une part importante du dernier cours, au moins 2 heures, je pense, me sert à ça. Notez sur un fichier à part, sur un coin de votre cahier, peu importe, les questions où vous sentez que c'est limite, et on se sert des 2 heures, je reprends l'intégralité du cours et je réponds à l'ensemble des questions que vous aurez. Entre-temps, évidemment, vos chargés de TD sont là pour ça aussi, hein. N'hésitez pas. Des cours, des questions même qui ne sont pas dans le programme précis de la fiche de TD, mais où vous avez besoin d'un éclairage, posez-leur la question, ils seront ravis de vous répondre. Ok, donc, on en a terminé avec le patrimoine. Il faut maintenant évoquer les droits patrimoniaux et donc la dualité des droits patrimoniaux. Ça fait l'objet d'un paragraphe 2. Il y a 2 grandes catégories de droits patrimoniaux. Les droits réels et les droits personnels. Droits réels, je l'ai martelé, je le redis, vous le savez maintenant, les droits réels, c'est les droits qui portent sur la chose. Parce que la chose en latin, c'est res, et que donc le terme de réel ici vient de res. C'est la première catégorie des... S'il vous plaît. C'est la première catégorie des droits patrimoniaux. Le droit réel, c'est-à-dire le droit portant sur une chose. L'autre grande catégorie dans la distinction, c'est au contraire le droit personnel. Si vous avez compris que le droit réel, c'est le droit qui porte sur la chose, vous avez compris que le droit personnel, c'est le droit qui porte sur une personne. Plus exactement, c'est le droit d'une personne à l'égard d'une autre. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on détaillera la semaine prochaine évidemment, mais si on reprend notre exemple de tout à l'heure, j'ai un droit de remise du bien à votre égard. Vous, vous avez un droit de paiement à mon égard, à moi. Voilà. Le lien d'obligation qui existe entre nous fait qu'on a chacun un droit personnel à l'égard de l'autre, c'est-à-dire un droit à invoquer à l'égard d'une autre personne. Vous, vous avez le droit de vous faire payer, moi j'ai le droit de me faire remettre le téléphone que vous m'avez promis. C'est ça un droit personnel. On va les détailler la semaine prochaine, les droits personnels, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut le visualiser. Dans l'absolu, là, sur la présentation, c'est pas hyper compliqué. Droit réel sur une chose, droit personnel sur une personne. Voilà. On commence donc, et on va aborder les grandes lignes, et il nous reste pas énormément de temps, mais on va commencer au moins le droit de propriété, pardon. avec un grand A sur les droits réels. On a vu tout à l'heure que l'une des classifications possibles dans les choses, c'était d'opposer les choses corporelles et les choses incorporelles. Je fais un aparté ici, enfin c'est pas vraiment un aparté, je précise un point sur l'introduction du paragraphe 2. Dans certains manuels, vous allez trouver non pas deux catégories, c'est-à-dire droit réel, droit personnel, mais vous allez en trouver trois: droit réel, droit intellectuel, droit personnel. Et moi, j'ai pas mis les droits intellectuels. Pourquoi ? Parce que les droits intellectuels, pour moi, ils vont dans les droits réels. Ça change pas grand-chose, c'est une question de présentation, je trouve juste que c'est plus logique. On a dit tout à l'heure, donc je raccroche mon fil ici, on a dit tout à l'heure que parmi les classifications possibles, je remonte dessus, voilà, on avait une classification en fonction de la matérialité de la chose. Que la chose était soit corporelle, soit incorporelle. Mais dans les deux cas, on est bien face à une chose corporelle ou une chose incorporelle. Donc quand je dois présenter les droits, pour moi, les droits qui portent sur des choses incorporelles, c'est bien des droits réels. C'est bien des droits qui portent sur une chose. Simplement, c'est une catégorie de choses particulières. Donc, moi, je mets les droits intellectuels comme étant une subdivision des droits réels. Tous ne le font pas. Parfois, on vous met les droits intellectuels de manière autonome. Si vous êtes paumé, ça n'a aucune importance. C'est une question de présentation. Je vous dis juste, pour moi, c'est plus logique. À partir du moment où la chose incorporelle est bien une chose, c'est plus logique de mettre les droits intellectuels, c'est-à-dire les droits qui portent sur la chose incorporelle, immatérielle. C'est plus logique de mettre ces droits-là dans les droits qui portent sur une chose. Parfois, dans certains manuels, vous allez trouver les droits intellectuels à part, en dehors des droits réels. Sachez juste que ce n'est pas vous qui avez fait une erreur de prise de notes ou moi qui ai raconté n'importe quoi. C'est une question d'approche. Certains auteurs considèrent que les droits intellectuels sont dans les droits réels. Ça me paraît plus logique. Certains, au contraire, vous les mettez de côté. Bon, ça nous amène, nous, du coup, dans notre présentation à nous, à faire un distinguo entre, d'une part, les droits réels stricto sensu, c'est-à-dire qui portent sur des choses corporelles, et ensuite, dans un petit 2, la semaine prochaine, on verra la question des droits intellectuels. Donc d'abord un petit 1 sur les droits réels stricto sensu. Je fais juste la présentation et on fera le droit de propriété la semaine prochaine, ça sert à rien de rentrer dedans là en 10 minutes. Ce qu'on appelle ici les droits réels stricto sensu, ce sont les droits qui portent sur une chose corporelle appropriée, susceptible d'appropriation à minima. Sur une chose corporelle, nécessairement. Le droit réel, c'est le pouvoir juridique qui est reconnu à une personne et qui porte sur une chose. Le pouvoir juridique reconnu à une personne et qui porte directement sur une chose. Peu importe que la chose soit mobilière ou immobilière. Peu importe qu'on soit face à un meuble ou à un immeuble. Dès lors que c'est une chose corporelle, c'est un droit réel. Et parmi ces droits réels, on va encore subdiviser et vous pouvez avoir des droits réels principaux et des droits réels accessoires. D'abord un petit A si vous voulez dans les droits réels principaux, mais juste les droits réels accessoires, le petit B va faire deux lignes parce que c'est du droit des sûretés et vous verrez ça en quatrième année. Mais donc le premier point si vous voulez, c'est sur les droits réels principaux. Les droits réels principaux, ils donnent à leur titulaire, c'est ce que je vous ai mis au tableau, le pouvoir de tirer de la chose tout ou partie de son utilité économique. Quand vous êtes titulaire d'un droit réel principal, vous êtes titulaire d'un pouvoir de tirer de l'objet de votre propriété soit la totalité, soit une partie seulement de son utilité. Si c'est la totalité, c'est le droit de propriété qui sera concerné. Si c'est juste une partie, alors on sera face à ce qu'on appelle un démembrement du droit de propriété. comme son nom l'indique, le démembrement et la résultante, comment dire ça, d'une fragmentation du droit de propriété. On va en faire des petits morceaux. Là où il était complet, on va le segmenter. J'ai perdu mon stylo, ça m'énerve. Bon, pas grave. On va le segmenter et parce qu'on le segmente, vous n'aurez qu'une partie des prérogatives qui sont reconnues dans le droit de propriété. C'est des termes que vous avez peut-être déjà entendus sans savoir précisément ce à quoi ça renvoyait. C'est mon travail de vous expliquer ça la semaine prochaine. L'usufruit et la servitude, c'est les deux grands types de démembrement du droit de propriété qui existent. Mais donc, et on s'arrêtera là-dessus, j'insiste sur le fait que vous compreniez bien la structuration. On est là dans les droits patrimoniaux. À l'intérieur des droits patrimoniaux, on a dit qu'il y a les droits réels qui portent sur la chose et les... Je vous jure, 1 minute 30. Accordez-moi 1 minute 30. Les droits réels qui portent sur la chose, les droits personnels qui portent sur la personne. À l'intérieur des droits réels, on a dit, on va faire le distinguo entre les droits réels stricto sensu, qui portent sur les choses corporelles, et les droits intellectuels, qu'on verra ensuite, qui portent sur les choses incorporelles. Là, on est donc dans les droits réels stricto sensu, qui portent sur la chose corporelle, qu'elle soit mobilière ou immobilière, et on a des droits réels principaux, des droits réels accessoires, droits réels accessoires dont on se fiche plus ou moins en première année, encore une fois, parce que c'est des sûretés. Dans les droits réels principaux, ce qui fait un droit réel principal, c'est le fait que le titulaire se voit conférer un pouvoir d'utiliser la chose, de tirer de cette chose-là tout ou partie de son utilité. Voilà. Tout, si c'est le droit de propriété, on le verra la semaine prochaine, c'est le plus complet de tous les droits, partie seulement, si c'est des démembrements, les deux grands démembrements qu'on envisagera, c'est l'usufruit et la servitude. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça ? Allez, bon déjeuner, à la semaine prochaine.